Donc séance semi-plénière aujourd'hui consacrée à la domination rapprochée, on a intitulé ça « La domination rapprochée, une approche heuristique ?» point d'interrogation. Cette séance a la particularité d'être organisée conjointement par le réseau thématique 17, gestion politique du corps et des populations, qui est animé par Dominique Mémy, par Gilles Ravenot et moi-même, et aussi avec le RT 27, sociologie des intellectuels et de l'expertise, qui est animé par Laurent Jean-Pierre, qui est en bout de table. Cette séance s'inscrit bien entendu dans le thème général du congrès, qui porte sur les dominations, mais nous voudrions nous intéresser ici à ce que Dominique Mémy, notamment, a proposé d'appeler la domination rapprochée. Cette domination possède plusieurs caractéristiques. Sa première caractéristique est classiquement qu'il s'agit d'une relation structurellement déséquilibrée entre un ou plusieurs individus. La deuxième caractéristique est temporelle et renvoie à une continuité de la domination, à une continuité dans le temps. La troisième caractéristique est spatiale et implique que la domination s'exerce dans un lieu unique et clos, un lieu confiné. Enfin, c'est une forme de domination qui implique la coprésence et la proximité physique des parties, le patron et l'employé, le maître et l'élève, le membre des classes supérieures et celui des classes inférieures. Et donc, à l'opposé des mécanismes de domination à distance, qui voient l'intervention d'un tiers, l'État en particulier, eh bien, la domination rapprochée met en relation directe les acteurs de la domination. Elle implique le contact des corps, ou leur évitement, leur frôlement, l'impossibilité précisément d'y échapper, la confrontation, l'échange verbal et d'innombrables interactions fugitives ou ritualisées qui marquent cette domination et qui la reconduisent. Cette domination rapprochée dans les situations qui vont nous intéresser aujourd'hui se déroule donc, on l'a dit, dans des lieux spécifiques qui sont des lieux confinés, des institutions plus ou moins totales, notion qu'il faudra interroger, des espaces sans échappatoire où cette domination apparaît structurelle et structurante, mais aussi des lieux privés, ceux de l'espace domestique, hors du regard, où d'autres règles de domination peuvent s'inventer. C'est par exemple l'espace ancillaire, celui de la domination des femmes, des enfants, des invalides, des malades. C'est l'espace de l'entre-soi, de la promiscuité imposée, mais aussi parfois de l'indifférenciation sociale, indifférenciation prétendue ou indifférenciation provisoire, quand en tout cas les hiérarchies tombent ou sont contestées. Et précisément, la question qui nous a paru intéressante ou intéressante aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce que la proximité fait à la domination? Ou encore, variante, qu'est-ce que la proximité a fait à la domination dans une perspective historique qui court, vous le verrez, dans les trois communications qu'on entendra dans un instant. Et peut-être qu'un élément de réponse provisoire à ces deux questions est que la proximité est le point ultime où se cristallisent et où peuvent être observés des changements anthropologiques et sociétaux importants, qui voient tout au long du XXe siècle, et particulièrement dans sa seconde moitié, l'avènement de sociétés plus permissives, de sociétés aux manières plus relâchées, de sociétés où les barrières de classe, les rappels des barrières de classe et les hiérarchies sont devenus insupportables, et où l'égalité est considérée, commence d'être considérée comme une vertu cardinale. La domination rapprochée aurait donc été quelque peu mise à mal dans ces périodes-là ou avant, là où la domination à distance continuerait de s'exercer sans entrave. Il faut donc se déprendre d'une vision univoque, anhistorique de la domination, pour voir plutôt des formes de domination inversées, des formes de résistance, voire des formes d'extinction de certaines formes de domination rapprochées, se demander en tout cas, ou travailler en tout cas, sur ces métamorphoses et sur ces mutations plus contemporaine. Voilà, je passe la parole à Gilles Ravenot pour une présentation des trois intervenants. Merci.
Merci Emmanuel. Oui, donc trois intervenants sur cette semi-plénière. D'abord, Dominique Mémy, directrice de recherche en sciences politiques au CNRS, rattachée donc au CESU, et qui travaille depuis plusieurs années sur les formes contemporaines de la biopolitique, qui l'ont conduit donc à travailler une nouvelle étape du processus d'individuation, où l'autonomie passe par le corps. D'où son attention pour la domination rapprochée, corollaire de cette découverte. Ensuite, on aura donc Boris Gobi, maître de conférence en sciences politiques à l'école, à l'ENS donc de Lyon, membre du laboratoire Triangle. Ces dernières années, il a beaucoup travaillé sur mai 68 et ses intellectuels, sur la question de la mobilisation et aussi sur le cinéma politique des années 60. Et puis enfin, on terminera avec Nicolas Mariot, directeur de recherche en sciences politiques au CNRS, rattaché au CURAP. Ses premiers travaux ont été consacrés donc au voyage présidentiel et depuis plusieurs années, il travaille sur une sociologie de la liesse et sur les problèmes épistémologiques qu'elle pose, tout en menant en parallèle des travaux historiques sur la guerre et une réflexion sur la socio-historiographie du politique. Alors je demanderai à nos trois intervenants ils ont 20 minutes, et de bien respecter le temps pour pouvoir laisser la parole à la salle et à la discussion. Voilà, donc sans plus attendre, je donne la parole à Dominique Mémy.
Bon, alors rapidement, je voulais d'abord remercier tous ceux qui sont à la tribune et notamment Laurent Jean-Pierre et le RT27 d'avoir accepté de soutenir cette mise à l'épreuve de la notion, de m'aider au fond à mettre à l'épreuve la notion, simplement par le rapprochement de nos textes aussi, et puis de le mettre à l'épreuve aussi à vos réactions. Deuxième point de préliminaire, je voulais juste vous faire une toute petite genèse de cette notion-là. En fait, elle procède d'un très fort attachement à l'insistance pour moi de l'importance de l'histoire en sociologie. J'étais en train de travailler tranquillement sur la biopolitique, ses transformations, l'histoire de l'administration sociale, des passages de début et de fin de vie. Et j'ai vu s'installer dans les années, disons, dans la décennie 65-75, disons, surtout, ce que j'ai appelé un gouvernement par la parole. C'est-à-dire que partout, dans l'hôpital, autour des décisions de procréation et petit à petit aussi de fin de vie, j'ai vu s'installer une sollicitation de récits biographiques minimaux permettant ensuite aux médecins de fournir la prestation qui était demandée. Bon, avec un petit décalage chronologique concernant la mort. Ce gouvernement par la parole, il m'a évidemment beaucoup interloqué. Je me demandais si on assistait à une évolution de ce rapport entre médecins et patients dans cette direction-là, quid de la traditionnelle emprise sur les corps. Bien entendu, elle n'avait pas disparu. La question, c'est quelle forme elle était destinée à prendre à l'hôpital. Et je l'ai donc travaillé sur l'hôpital, et puis je me suis aperçue assez vite que l'endroit le plus extraordinaire où elle avait changé de forme, où ce gouvernement par la parole s'était cristallisé, installé, c'est outre l'école et beaucoup d'institutions, c'était la domus, c'est-à-dire l'espace domestique. Voilà comment j'ai pensé qu'il fallait se focaliser sur ces transformations à cette période-là de la domination en essayant de trouver une notion comme celle qui vous a été définie tout à l'heure, un déséquilibre structurel, une incarnation de la relation, la coprésence, un critère temporel, la continuité de la relation et un critère spatial, l'unité de lieu. Des relations relativement enfermées où il y a peu de médiation entre les individus de tiers, que ce soit le droit, l'argent ou d'autres figures intermédiaires, où il y a peu de formalisation institutionnelle de la relation et où les individus, les protagonistes n'appréhendent leurs protagonistes que moins sous l'espèce des fonctions sociales, le père, la mère, etc., que sous l'espèce des personnes. Alors, bien évidemment, ce qui se travaille ici pourrait valoir pour d'autres relations de domination qui présentent certains aspects de la domination rapprochée. Quand le colonisateur ou le colonisé partage son espace quotidien avec le colonisateur, quand l'ouvrier reçoit du patron logement, salaire en nature, quand les femmes et les jeunes vivent sur l'entreprise agricole de manière tellement serrée qu'ils ne peuvent pas en sortir. Évidemment, quand on a affaire à une institution totale, qui est une espèce de sous-ensemble de ces figures-là, eh bien, on a un certain nombre de facettes de la domination rapprochée. Bon. Il se trouve qu'une de ces relations avait un intérêt particulier, c'était la relation maître-domestique. Pourquoi ? Parce qu'elle m'est apparue assez vite comme une des formes les plus abouties de cette relation, mais surtout parce qu'elle s'est vue mettre en crise, au moins partiellement, dans cette période-là, à la deuxième moitié des années 60. Et aussi parce qu'un certain nombre d'auteurs, Sartre, Simone de Beauvoir, le docteur Le Guillan et d'autres, s'étaient mis à penser la relation, l'intolérance à la relation à partir de ces relations de domesticité. Alors je vais aller très vite là parce que j'ai fait un papier dans lequel j'ai parlé de cette notion déjà, qui s'appelle la crise de la domination rapprochée. Je vais aller très vite parce que je ne veux pas faire redite, en vous disant essentiellement que ce qui s'est produit dans la domus, pour me concentrer là-dessus, et dans un premier temps sur le rapport aux enfants et au rapport aux femmes, on voit bien cette crise, elle est assez évidente, dans la mesure où le premier élément, c'est la possibilité de sortir. C'est un truc assez frappant. Je me souvenais d'un vieux papier dans l'histoire du privé, un sous-chapitre d'un article de Michel Perrault qui s'appelait « Sortir » justement, où elle disait que les femmes qui s'étaient livrées à la philanthropie, elles étaient sorties de chez elles, et ça avait entraîné un certain nombre de réactions et de reconstruction de soi. Et bien là, c'est ce qui se passe. Les enfants commencent à avoir des droits de sortie au-delà des heures draconiennes. Et surtout, les femmes sortent. Elles deviennent des salariées à l'extérieur beaucoup plus qu'avant. Elles accèdent au marché. Elles continuent à travailler après le mariage. C'est ça la grande transformation des années 60. C'est pas qu'elles travaillent pas du tout, c'est qu'elles continuent à travailler après le mariage. Et puis, elles ont accès à l'extérieur, le marché bancaire, etc. Bon. Ce serait un premier point important, la sortie possible. Le deuxième point important, c'est l'intolérance à l'emprise physique sur ces corps-là de dominer, femme, enfant ou autre. En tout cas, c'est plutôt l'objectivation du caractère intolérable de l'emprise physique. Rappelez-vous les discussions, les batailles sur le viol, mais également plus récentes, les batailles sur la fessée. Autre troisième point, c'est la mise en question, le caractère intolérable des limitations physiques, ce qui est un peu différent, à savoir, c'est ce que nous dit Pro à propos de l'éducation parentale, tous les parents là vont réagir, la fessée qui est brandie non plus comme une réalité, mais comme une menace, ou bien la privation de dessert qui est brandie non pas comme une réalité, parce que priver un enfant de dessert, c'est dur aujourd'hui, mais comme une menace possible qui passe par le discours. Ce qui est intéressant, c'est que ces limitations physiques, apparemment, dans les lettres, par exemple, à Ménie Grégoire, entre 67 et 68, les femmes qui écrivent se disent, pour certaines d'entre elles, battues, violentées, etc. Mais ce dont elles se plaignent de plus en plus, c'est d'être privées de liberté. Elles se disent prisonnières du foyer, et certaines même parlent de maternité comme prison dans le foyer. Donc là, ce qui est pointé, c'est bien le phénomène de soit de la sortie, soit de la privation physique. Je passe, quatrième point, c'est un rapport à la parole. Car à la place de l'emprise physique, des limitations physiques, etc., ce qui s'insinue, c'est la promotion de la parole, ce que j'avais découvert un peu par hasard dans le système, le dispositif hospitalier autour des décisions de procréation. Et ça, dans les lettres à Ménie Grégoire, c'est très net, c'est-à-dire qu'elles se plaignent, les femmes, critiquer tout ce que je dis, se boucher les oreilles quand j'élève la voix, écouter avec un visage fermé et l'air mécontent, c'est bien ça dont il s'agit, c'est-à-dire elles n'ont pas accès à l'échange verbal. Et bien évidemment, dans les émissions d'Éliane Victor à partir de 64, les femmes aussi, ou à la radio, dans les premiers courriers du cœur, suivis par les fameux dialogues avec Ménie Grégoire, vous assistez à une extraordinaire explosion de la parole féminine. Donc, vous voyez deux choses qui sont retravaillées socialement dans cette période-là, sortir et la parole, on retrouve là, exit et voice, qui viennent contrebalancer le loyalty du système triadique et qui me semble tout à fait opérant encore aujourd'hui de Hirschman. Alors, la fin des domestiques, et j'en finirai par là pour cette partie sur ce papier. En fait, l'intérêt des domestiques, c'est qu'il s'est passé dans cette période-là un phénomène absolument spectaculaire, c'est l'extinction physique de la classe des domestiques. Rappelez-vous le texte de Pierre Bourdieu sur les paysans, l'extinction physique de la classe des paysans en relation avec la domination. Là, c'est le contraire, c'est la sortie de la domination qui fait extinction statistique de cette classe, puisque c'est très clair, sur une longue durée, on voit diminuer le nombre des domestiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pendant la période 68-75 que chute le nombre des femmes domestiques qui étaient demeurées stables jusque-là. Comme si 68 marquait symboliquement la condamnation statistique de la prise de corps dans la Domus. Et des données comparables en Belgique montrent que c'est entre les deux recensements de 61 et 70 que le décrochage se produit, et plus précisément entre 61... entre 70 et 81, le décrochage devient absolument exponentiel. Donc, je vais très vite. Non seulement il y a une espèce de disparition statistique, le terme de bonne, il y a une disparition sémantique, le terme de bonne disparaît. Ici, à Nantes, on a retrouvé des lettres envoyées à le syndicat CFDT d'employeurs qui commencent à faire disparaître petit à petit le terme de bonne de leur texte au profit d'employés de maison. On a plein de signes de cet ordre-là. Évidemment, le plus extraordinaire, c'est la disparition entre 54 et 82 dans les catégories de l'INSEE. On avait en 54 les personnels de service, et en 82, ça constituait une CSP. Et en 82, ils sont refoulés dans celle d'employés au pluriel, et qui va gommer la notion de service au profit de personnel de service au pluriel, direct au pluriel, au particulier. Donc le service laisse la place au service au pluriel. Bon, je passe ce qu'on a dans les autobiographies, même si vous allez voir, l'autobiographie est une source absolument formidable pour comprendre ce qui se passe. On a une autobiographie qui s'appelle Moi la bonne, publiée en 75 à l'issue de ce processus. Ce que je veux simplement souligner, et je vais ensuite finir sur les intérêts et les inconvénients de ce type d'analyse, c'est que ce qui semble être en cause ici, contre toutes les contraintes économiques de l'époque, c'est une intolérance au rapprochement. Alors, pourquoi je vous dis contre les contraintes économiques de l'époque ? Parce que l'époque, c'est l'époque où les femmes vont sortir, travailler, après les deux enfants qu'elles ont faits, et donc elles auraient eu besoin normalement des domestiques. Or, en même temps qu'elles sortent et qu'elles auraient eu besoin des domestiques, on voit déserter les chambres de bonne dans les grandes villes. Bon. Ce qui semble suggérer, et la biographie Moi la bonne de Arondeau le montre, qu'il y a une intolérance à ce rapprochement géographique et spatial, de se dominer, ce rapprochement de la Domus, et qu'on peut faire l'hypothèse que c'est bien, ce n'est pas la violence physique et sociale, et on le voit bien dans l'autobiographie d'Arondeau, ce n'est pas la violence physique et sociale qui fait le malheur des domestiques. Le docteur Le Guillan le dit tout à fait pour les bonnes folles qui arrivent dans son service. Ce n'est pas la violence physique et sociale, c'est le rapprochement avec le dominant, qui évidemment est un rapprochement qui se mixe avec une mise à distance radicale. C'est ce que dit Arondeau à un moment donné. Elle crie « Je ne fais pas partie de la famille ». C'est des mots, tout ça. C'est-à-dire qu'elle s'aperçoit qu'on l'a intégrée, mais qu'elle n'en fait pas partie. Donc c'est bien le rapprochement qui serait, ça n'est pas les violences physiques, c'est plutôt la constitution comme violence de quelque chose qui n'en était pas une, la simple proximité physique avec le dominant, qui dit la domination en même temps qu'elle la nie, hein, je prends une formule assez classique maintenant, et qui va se négocier sans arrêt la surveillance de la proximité physique. Bon, l'intolérance au rapprochement dans une relation structurellement déséquilibrée. Alors, pour finir, les avantages et les inconvénients de ce type d'analyse. L'avantage, il y en a deux, à mon avis. Un, pour faire plaisir à Gilles Ravenot, qui est que ces dominations rapprochées sollicitent des affects absolument considérables, dont, et ça c'est un clin d'œil aux personnes qui travaillent sur le dégoût le matin avec nous, dont le dégoût par rapport au dominé juste présent n'est pas le moindre. Il y a des affects absolument d'une violence extrême que Le Guillan va trouver chez ses bonnes. Premier point, ça nous permet d'accéder pour les gens, les historiens, les sociologues, des émotions qui se développent aujourd'hui. Moi, je suis un peu dubitative, mais quand même, ça donne des billes. Deuxième point, ça va, je crois que je vais faire plaisir à tous les intervenants ici, Emmanuel, Laurent Jean-Pierre, qui s'intéressent comme moi, qui poussent, je crois, fermement à réintroduire l'histoire, même l'histoire récente, dans nos sociologies. Je souffre beaucoup, moi, cette éviction de l'histoire. Cette analyse par la domination rapprochée, vous allez le sentir dans les deux interventions suivantes, permet d'arrimer l'analyse de la domination à l'historicité, c'est-à-dire aux différents états du développement de la domination. Quand on dit ce que je dis souvent, moi, le corps a rendu d'extraordinaires services à la domination, en fait, on n'a presque rien dit. Ce qui est à dire et à travailler, c'est les modalités différentielles du recours au corps dans la domination. Et ce n'est pas des intensités comme ça sur un graphique ou une hiérarchie. Parler de la menace ou de recours, l'emprise physique directe, vous voyez, en fait, on ne sait pas ce qui est le plus violent. Hein. Parler de l'enfermement ou de la violence physique, je demande à voir. Parler de l'interdit de parole ou de la violence physique, bah, il ne s'agit pas hein, de noter la violence de la domination, mais en tout cas de distinguer des états de la domination en fonction de ces modalités du recours au corps ou éventuellement ou d'autres choses. Et je vous signale que d'autres ont essayé, et ça nous permet de se réapproprier à nouveau frais d'autres analyses de ce type-là. Quand, par exemple, Boltanski remarque qu'il y a un déplacement de la cité domestique, des valeurs de la cité domestique, vers une cité par projet, par exemple, hein, où on décide, on parle, voilà. On est dans un type d'analyse avec lequel on peut dialoguer. Et évidemment, Pierre Bourdieu, quand, dans quand il travaille sur les modes, les états de la domination, il s'intéresse à le passage de la suggestion personnelle à la domination impersonnelle, ou mieux encore, dans ce merveilleux article que je vous recommande, qui s'appelle « De la maison du roi à la raison d'État », c'est le transfert de ça, mais dans l'ordre du politique, eh ben, on a donc des gens avec lequel on peut retravailler cette question des modalités de la domination. Par contre, il y a un grand inconvénient. J'écoutais hier ou avant-hier, je ne sais plus, la semi-plénière sur les classes sociales. Et évidemment, je buvais du petit lait parce que j'avais des statistiques, j'avais des classes en soi et pour soi, j'avais des groupes. Bon, et il est évident que quand on travaille sur la domination rapprochée, comment on fait ? C'est-à-dire comment on va accéder comment on va faire l'analyse de la domination alors qu'on a affaire à des relations éminemment sentières, dans un lieu absolument étouffant et où l'enfermement est partie prenante hein, de la relation. Donc ça pose une question. Il y a des solutions, soit des entretiens a posteriori, c'est ce qu'a eu le Guillain quand il voit arriver, c'est bon. Il les entend, il les fait parler, etc. Ou bien, ce que vous allez entendre, l'autobiographie, hein, le journal intime, les carnets également, c'est une ressource. On n'a pas toujours, j'ai eu de la chance moi d'avoir les statistiques des domestiques, on n'a pas toujours ça. Je pense malgré tout qu'on doit pouvoir jouer de toutes les ressources possibles. Ça doit être faisable. Voilà. Merci beaucoup.
Je ne sais pas si ça marche là. Il faut être dans l'axe, donc je vais me tourner un petit peu. Je vais essayer je suis obligé de tenir les délais, c'est une domination rapprochée pour le coup, je pense que on me le rappellera, mais je vais donc présenter finalement le squelette de ce que j'avais préparé, parce que j'avais préparé trop comme d'habitude, mais là beaucoup plus que d'habitude je dirais. Je voudrais positionner le matériau sur lequel je vais m'appuyer par rapport à différentes manières non exhaustives d'envisager ou d'analyser la domination rapprochée. Évidemment, on connaît le classique de Goffman qui montre la vertu de l'enquête ethnographique pour voir le fonctionnement d'une institution totale. Mais évidemment, quand on a affaire à un fait du passé, c'est plus compliqué. Alors, on va essayer de chercher des sources. On peut regarder le fonctionnement d'une institution totale à travers son règlement et pour prévenir tout juridisme, essayer de regarder les pratiques effectives de sanctions. On peut aussi vouloir, et c'était mon souhait, s'approcher au plus près de l'expérience de la domination rapprochée en essayant d'en reconstituer le fil quotidien et le vécu subjectif. Alors on peut passer par des autobiographies, mais le problème c'est que ce sont des témoignages rétrospectifs qui sont filtrés par la mémoire et qui sont pris dans des identités narratives. J'ai donc choisi de travailler sur une autre source qui est un journal écrit au fil même de l'expérience de la domination, et qui consigne au jour le jour les petits faits de la vie recluse qui permettent de se situer au niveau, au ras finalement de l'expérience de la domination rapprochée. C'est une source qui est en plus spécifique parce que c'est pas un journal personnel, c'est un journal tenu à quatre, par quatre jeunes filles de 17 ans qui sont pensionnaires d'un internat dans une petite ville de Bourgogne en 1961. Elles l'écrivent de janvier 61 à janvier 62 dans une petite ville voilà, de Bourgogne de 7000 habitants. Les cahiers s'appellent les cahiers des Yétis parce qu'en fait l'écriture est enclenchée parce que l'une d'elles a été traitée de Yéti, homme des neiges, par un camarade malveillant. Et elles ont décidé de s'autonommer Yéti 1, Yéti 2, Yéti 3, Yéti 4, et ce sont leurs identités d'écriture, leurs identités scripturaires. Et ces cahiers consignent au jour le jour événements et affects, et ça permet de voir la vie quotidienne officielle et clandestine d'une institution scolaire répressive. Elles sont dans un lycée mixte, mais dans un internat non mixte. Alors justement, l'institution dans laquelle elle est, il faut préciser que c'est une institution déstabilisée. D'une part parce que la mixité a été introduite 2 ans auparavant et que ça s'est traduit visiblement par un surcroît de contrôle pour éviter et prévenir au maximum les possibilités de contact entre garçons et filles. C'est une institution déstabilisée aussi parce que on est en 61, on est donc dans un contexte de généralisation de l'enseignement secondaire, et du coup le lycée et surtout l'internat a vu un afflux en fait d'élèves et de pensionnaires, et donc ça s'est traduit par l'ajout de préfabriqués, etc. Enfin bon, il y a une promiscuité énorme et par un surcroît d'interdits d'une certaine manière, permet de gérer la surpopulation finalement lycéenne. Et quant aux étudiantes, aux lycéennes elles-mêmes, d'une certaine manière, elles sont désajustées à cette institution qui est elle-même déstabilisée, pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, mais qui sont aussi en partie historiques et en partie sociales. Alors je vais d'abord présenter comment fonctionne cette institution répressive, et dire ensuite quelles sont les ruses et les tactiques qui forment la vie clandestine de l'institution par laquelle les jeunes filles vont essayer de se déprendre quelque peu de la domination rapprochée. Et puis je terminerai en essayant de parler de l'expérience subjective de la domination rapprochée dans le cas qui est le mien de ce que ça permet de voir aussi un ensemble de problématisations à l'époque du temps, du destin, de la liberté, etc. Alors cette institution est répressive par plein d'aspects, ça s'observe par l'accumulation des interdits et des dispositifs de contrôle. D'abord il y a une promiscuité, elle est manifeste dans les réfectoires, dans les salles d'études et bien évidemment dans l'internat. C'est un dortoir de 50 personnes, 50 filles, chacune a un lit et un placard, on peut sauter apparemment d'un lit à l'autre tellement ils sont rapprochés. Et puis il n'y a pas d'intimité, même pour l'hygiène. Elles sont obligées de se laver les unes devant les autres parce qu'il y a un bidet pour 10, il n'y a pas de douche, etc. Bon, voilà. L'institution produit, elle, une existence réglée au maximum, et ça passe d'abord par le contrôle du temps. Le temps est minutieusement réglé du lever au coucher pour ces jeunes filles. Il n'y a pas de trou dans cet agencement temporel. Mais il y a aussi une géographie de la domination. Alors là, c'est la configuration des lieux y oblige d'une certaine manière, puisque le lycée se trouve à un endroit et la pension se trouve à plus d'une centaine de mètres au bout de la rue. Et bien cette migration pendulaire du matin et du soir entre la pension et le lycée se fait systématiquement avec accompagnement d'un surveillant, bien entendu. On les fait même passer non pas par la rue principale qui est trop citadine, il y aurait trop de contacts avec l'extérieur, et bien qui est pourtant le chemin le plus court, mais par des boulevards extérieurs qui limitent les contacts avec l'extérieur, justement. De géographie de la domination, rapprochée aussi, parce que le lycée a beau être mixte, en fait il y a une zone réservée aux garçons et une zone réservée aux filles, aussi bien dans les classes que dans la cour de récréation, et il y a interdiction de parler aux garçons. De même dans les réfectoires, ils ne mangent pas dans le même réfectoire. Je parle du midi, puisque le soir, de toute façon, la pension n'est pas mixte. Quant au contact avec l'extérieur vraiment, eh bien, toute entrée ou sortie de la pension est évidemment indexée à un billet de sortie ou un billet d'entrée qui est dûment visé par l'institution scolaire ou visé par la famille, bien entendu. Il y a même tout un système de correspondance sur lequel je n'ai pas le temps de m'étendre, mais qui répertorie l'ensemble des individus, des personnes avec qui elles ont le droit d'entretenir une correspondance. Et on peut être collé parce qu'on a reçu une lettre d'un garçon non identifié dans la liste de correspondance établie par l'institution. Et puis il y a tout un système d'interdits, de punitions et de sanctions. Les filles sont interdites de se maquiller, d'avoir des cheveux longs et de porter un pantalon. Tout ça vise à la tenue des corps et la retenue des comportements, bien sûr. Il est interdit de parler dans tous les lieux, classes, études, réfectoires, même on n'a pas le droit de parler au réfectoire, et évidemment au dortoir, même si évidemment il y a du chahut, et surtout on n'a pas le droit de parler aux garçons. Évidemment, toute infraction fait l'objet d'une sanction. Je passe sur le système de sanctions, accumulation d'avertissements, etc. Le plus vexatoire est la colle qui vous oblige à rester à la pension le dimanche. Parce que là, vous êtes privé de la sortie vers les familles. C'est en général une déprime absolue, d'après les descriptions qu'elles en font. Il y a aussi toute une pratique de la délation, de la dénonciation, évidemment, de l'autorité, des personnels de l'autorité entre eux, évidemment. Dès que l'un repère quelque chose, il le signale. Ça peut aussi être des dénonciations, même s'il n'y a pas beaucoup d'occurrences quand même, entre pères, entre jeunes, entre eux. Elles vont appeler ça finalement une sorte de véritable dictature. Elles parlent aussi de politique d'autorité, à laquelle évidemment, à laquelle elles ne consentent aucunement. Alors évidemment, je n'ai pas le temps de le préciser, mais cette institution scolaire ne peut avoir son autorité, exercer son autorité, que parce que cette autorité est garantie en dernier ressort par les familles. Les familles elles-mêmes agissent comme un contrôle du corps et des allées et venues des jeunes filles, même si, d'un certain point de vue, les familles sont quand même un tout petit peu plus libérales, mais c'est vraiment un tout petit peu plus libéral. En général, elles redoublent les contrôles, voire même les sanctions. Sauf pour l'une d'entre elles qui va obtenir à la rentrée 61 l'autorisation de dormir dans une chambre dans la ville, et alors là c'est évidemment la liberté qu'elle découvre. Cette domination rapprochée fait subir finalement aux pensionnaires une expérience qui n'est pas très loin de l'expérience d'une institution totale, mais il y a quand même, évidemment on ne peut pas rapprocher ça quand même des institutions totales analysées par Goffman, parce qu'il y a quand même un petit peu de négociation, mais pas grand chose. Elle est plus envisagée que réalisée. Il y a des rituels et des cérémonies, mais ça aussi dans les institutions totales, selon Goffman. Le bal du bahut, par exemple. Mais le bal du bahut, il y a un tout petit peu de mixité. Mais en réalité, tout est sous contrôle de l'institution quand même. Obligation faite aux filles de se regrouper entre les danses, par exemple, etc. Et les sorties culturelles et sportives, il y en a, mais elles sont encadrées. Évidemment, on ne peut pas sortir comme ça, comme on veut, aller au cinéma comme on veut. Par rapport, évidemment, à la liberté la plus belle, c'est lorsqu'elles obtiennent enfin la possibilité d'aller au bal du dimanche après-midi ou au bal du samedi soir, au bal de ville, hein, pas le bal du bahut qui, lui, est vraiment trop sous contrôle. Mais c'est l'objet de négociations et de ruses, et j'y viens, colossales, infinies, avec l'autorité parentale. Alors, les tactiques et les ruses, c'est en quelque sorte des arts de fer ou de résistance à la situation de domination rapprochée. Évidemment, il y a d'abord évidemment le chahut et les pratiques potages qui existent quand même dans cette institution surréglée. Elles appellent ça leur crise marrante, etc. Mais ce qui est important, c'est que c'est cette poussière de petits désordres et de petites insubordinations ne prennent jamais la forme d'une rébellion ouverte. Même si la rébellion ouverte, elle est désirée, envisagée. Il n'y a jamais de rébellion ouverte. Elles n'en ont pas les ressources, d'une certaine manière. Il n'y a donc pas de voice, on pourrait dire. Il n'y a pas d'action collective dans cette institution. Le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus d'exit. Il n'y a pas non plus de défection. Même si, alors là, elles en rêvent. Il y a le moment où c'est leur est tellement insupportable qu'elles rêvent de se barrer, tout simplement, de se barrer de la pension, et puis elles viennent que pourra pour les sanctions. Mais elles ne passent pas à l'acte. Alors, il leur resterait quoi ? Il leur resterait à s'y faire, d'une certaine manière, à cette domination rapprochée, mais précisément, ils n'y parviennent pas à s'y faire complètement, ça leur demeure insupportable. Il leur reste donc à ruser. Ce sont toutes les adaptations secondaires qu'elles vont développer pour ruser avec l'institution. Il y a quantité de petites ruses, hein. Ça peut être, par exemple, on va essayer de détourner la surveillance de la mixité en se débrouillant pour frôler un garçon. C'est déjà un grand événement de frôler un garçon. On va aussi utiliser les water, comme elles disent, comme poste d'observation, parce que visiblement il doit y avoir une lucarne, je n'ai pas identifié par quel biais elles arrivent à constituer ça en poste d'observation, mais ça leur permet de regarder la cour et de prendre en photo les garçons. Alors j'ai mis du temps à comprendre qu'elles ne prenaient pas les garçons en photo dans les water, mais depuis les water, hein, donc ils sont en fait dans la cour. Donc il y a quand même une retenue malgré tout qui est continuée de leur part. On peut aussi essayer ou envisager d'intercepter un avertissement, de trafiquer ses notes, mettre un 1 devant un 4 en histoire, par exemple, manigancer un alibi. Le plus beau qu'elle essaie de développer, c'est elle prétexte un goûter d'anniversaire pour en fait obtenir le droit de dormir dans la chambre de Daniel, qui a obtenu donc sa chambre à la rentrée 61, pour pouvoir sortir au bal du Bahut, pas en interne, ça supposait qu'elle rentrait à la pension ensuite, mais en externe, pour dormir chez Daniel, parce que précisément dormir chez Daniel, ça leur permettra d'enchaîner avec la surboom du lendemain, qui est là le grand événement. Il y a une surboom, mais c'est le grand événement. Il y en a un récit absolument ébloui ou extrêmement frustré par celle qui a été interdite d'y aller. Ruser avec l'autorité, c'est aussi les cahiers, le journal collectif lui-même. Il est le produit de la ruse. Il consigne des tactiques et des ruses, mais il est lui-même le produit de la ruse. Car comme dans les institutions totales, les petits objets sont pratiquement interdits. On a peu de choses à soi, et a fortiori un cahier comme celui-ci. Donc, elles sont obligées de le cacher sous le matelas. Pendant les vacances, il y en a une qui en a la garde, évidemment. Hors de question de laisser ça dans un casier de l'étude. Et puis, quand est-ce qu'elles l'écrivent? Le dortoir, c'est pas possible, il y a 50 personnes. Elles l'écrivent en étude, voire même en cours, en faisant semblant de faire leur travail scolaire. Donc c'est presque un miracle sociologique que cette source nous soit parvenue jusqu'à nous et non pas subtilisée par l'institution. Enfin, elles vont régulièrement employer les mots, le vocabulaire de la ruse, il est très présent. Ruse, rusé, rouler, tromper, baratiner, se faufiler, jouer, jongler, revient à maintes reprises. C'est même érigé au rang d'attitude générale par celle qui obtiendra la chambre d'ailleurs. Puisqu'elle dit, pour arriver à ce qu'on veut, il faut baratiner, se faufiler, jouer, jongler avec tous les caractères des gens qui t'entourent. C'est ce que je fais continuellement jusqu'à présent, j'ai toujours eu à peu près ce que je voulais. Un exemple récent, mes parents étaient fermement décidés à ce que je fasse ma première, parce qu'ils ont redoublé leur première en interne. Moi, je voulais aller à Paris dans l'école de secrétariat, j'ai réussi, 3 semaines de baratin, ils étaient d'accord. Je change d'avis, je veux rester dans la ville en question, mais avec une chambre, 4 jours de baratin, ils sont d'accord. Mais les autres vont lui dire, nous, nos parents ne peuvent pas accepter ça. Ce que tes parents acceptent, nos parents ne pourront jamais l'accepter parce qu'eux, ils sont plus autoritaires. Et parce que c'est toute une dispute, elle leur reproche de ne pas avoir le courage d'être trop loyal, trop honnête, et par conséquent d'être finalement passive, de compter sur le temps qui arrange bien des choses, comme disent les gens simples, dit-elle, et d'attendre que la liberté comme ça vienne toute seule dans quelques années lorsque l'âge adulte arrivera. Et évidemment, il y a toute une dispute sur l'étendue de la ruse. Et cette dispute est fascinante parce qu'elle mesure, elle montre à quel point la ruse, si elle est pratiquée, ne peut pas devenir une seconde nature, en tout cas vis-à-vis de la famille. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'école, l'autorité de l'école n'est qu'obéie, elle n'est pas consentie à aucun moment, mais il demeure vis-à-vis de la famille, une sorte, chez les trois, en tout cas trois autres, une sorte de loyauté continuée qui fait qu'on ne peut pas malgré tout ruser à tout bout de champ vis-à-vis de la famille ou tromper à tout bout de champ la famille. Donc l'empire de la ruse est restreint par cette loyauté familiale qui est continuée, même si on rêve, elles disent, ben non, ils veulent la guerre, parlent les parents, ils l'auront. Rien de plus déprimant qu'une guerre froide où n'apparaît que le mépris, le dégoût de ses parents. Elle dit qu'elle fera le mur pour le 31 décembre, elle ne fera pas le mur pour le 31 décembre et elle ne déclarera aucune guerre. Mais c'est envisagé et c'est même souhaité. La famille suscite des affects de haine, mais il n'y a pas de rébellion ouverte, il n'y a pas de transgression véritable. Alors à partir du moment où elles sont privées des possibilités de l'exit, de la voice, qu'elles sont prises dans une loyauté malheureuse, mais quand même prisonnières d'une surveillance tatillonne, comment endurent-elles finalement la situation qui leur est faite? C'est là que l'écriture du journal est décisive. Elle permet de consigner finalement l'expérience, enfin la vie subjective de l'enfermement, et en même temps de montrer que par tout un ensemble de problématisations, elles vont se constituer comme sujet finalement à travers un souci de soi, une sorte d'examen de soi. Et là, il s'agit de saisir la source, pas seulement comme une source qui nous permet d'avoir accès à ce qui est dit, mais l'analyser en tant qu'activité elle-même. Elle est une activité de la ruse et elle est une activité par laquelle on peut soutenir, endurer finalement l'enfermement. Il y a des vrais affects d'enfermement. Les deux affects principaux, c'est le sentiment carcéral. C'est peut-être un peu gros de dire ça dans une pension, d'accord, mais il y a un affect carcéral et il y a un affect d'ennui. Alors les moyens finalement d'y échapper, c'est par exemple l'évasion mentale, le voyage en pensée, la rêverie, le fantasme du dehors. Par exemple, le lit est souhaité, parce que le lit c'est le lieu où on va s'évader mentalement. Imaginer une vie plus aérée, plus excitante. Elles appellent aussi ça des crises poétiques. Elles vont aussi tourner en dérision les personnels de l'institution, comme si l'autorité, elles étaient obligées de s'y plier, mais qu'il y aurait une sorte de dissidence intérieure. Donc il y a toute une collection de surnoms et de sobriquets à l'égard des surveillants et des profs qui sont savoureux. Binoclard, Blabla, Bob, Bobinard, Le Bouc, Les Dentés, Lapinos, Nénette, La Poule, Peau de Vache, Pitarin, Pitarine, Tête Carrée, Face d'œuf, La Surge, Le Boss, Le Patron. Et ils défilent dans cette histoire comme des personnages grotesques. L'autre technique, ça va être de mettre à distance le quotidien par des procédés proprement littéraires. C'est-à-dire que la réalité est sublimée. la réalité est sublimée en fiction dès qu'elles le peuvent. C'est-à-dire qu'elles vont raconter ce qui leur arrive comme un roman, comme une pièce de théâtre ou comme un feuilleton. Par exemple, il y a une histoire d'amour, en fait, à distance, c'est que des échanges de regards entre Daniel et un garçon. Elle qualifie ça de roman et elle l'évoque comme un feuilleton. Quel est le mystère qui enveloppe le jeune héros? Pourquoi a-t-il agi ainsi envers Daniel? C'est ce que vous saurez en écoutant le 10134e feuilleton de notre célèbre roman « Ça va rosir, ça va rougir ». Le moindre petit fait peut être traité littérairement et elles vont aussi transformer les affects en personnages à qui elles s'adressent et qu'elles font dialoguer. Donc le cafard devient un affect, devient un personnage, il parle. L'amour devient un personnage qui parle. L'avenir devient un personnage qui parle. Le bac devient un personnage qui parle. Le bac va venir nous voir, il va dire « Je viens à vous, Yeti, car vous croyez en moi, vous avez eu la foi nécessaire pour passer votre bac sans travailler, c'est donc que vous comptez uniquement sur moi. Je vous couronne donc bachelier. » C'est le premier bac. Hein. Elles inventent aussi des scénettes de vengeance bouffonne. Elles imaginent qu'elles suent tellement d'ennui et de labeur dans l'étude qu'en fait, ça forme une inondation qui emporte tous les surveillants, tout le monde meurt. Ensuite, elles vont à l'enterrement dans la ville, sous le regard craintif du reste de la ville qui a peur lui aussi d'une inondation de sueur qui couvrirait l'ensemble de la ville. Et puis, elles s'imaginent en bande criminelle. On a décidé avec Dudul de fonder le club ABLB, à bas le bac. Cotisation, assassiner deux profs d'une valeur égale à au moins une journée de travail, ou bien nous apporter les sujets du bac. Et puis elle s'identifie à Scapin, c'est très intéressant, qu'elle trouve sublime, et elles estiment que la façon dont elles écrivent, c'est une façon d'écrire à la Prévert aussi. Je vais maintenant aller rapidement, parce que je crois qu'il me reste très peu de temps, 3 minutes. Ces procédés visent à subvertir de l'intérieur une vie sans événement, parce que l'ennui est la coordonnée centrale de l'expérience de l'enfermement. Et ce temps absolument étalé et qui paraît sans fin, elles vont essayer de le faire durer. Alors, ça peut passer par le décompte du temps. Par exemple, plus qu'un quart d'heure avant 4 heures. Vous vous rendez compte, il n'est que 5h15. Elles écrivent ça dans le carnet. Il y a une économie affective aussi attachée à cette dilatation temporelle, à ce présent d'ennui. Elles passent par des états extrêmes, disent-elles. Alors ces états extrêmes, c'est elles passent de la neurasthénie à la joie, de la crise marrante, comme elles disent, à la crise de dépression, de la crise de folie, à la crise d'angoisse. L'une dit, elle raconte ce qui est vraiment une crise d'angoisse, et elle dit, mais moi j'éprouve tout de façon extrême, soit je suis trop joyeuse, soit je suis trop déprimée. Elles vont aussi alors l'une des manières de tenir c'est l'une d'elles, Françoise, dit moi j'ai lu Les nourritures terrestres de Gide, c'est super, en fait tout est dans le bonheur simple, des petites choses, des petites sensations du quotidien, puisque de toute façon il n'y a rien d'autre, mais elle dit c'est ça, vivre chaque instant le plus intensément sans penser ni au passé ni au futur, mais c'est pas tenable parce que elles veulent quand même, elles ont finalement, il y a un affect de quelque chose de plus large d'une certaine manière. Et donc, en fait, elles vont écrire l'ennui. Écrire l'ennui, c'est déjà le transformer en activité. C'est une façon, finalement, de dépasser un tout petit peu l'ennui. Et elles relisent le cahier, et ça les distrait aussi. Parce que ça leur donne l'impression que leur vie est un peu plus dense, finalement, qu'elle n'est véritablement. Et dans cette économie temporelle, eh bien, elles en viennent à rêver un avenir beaucoup plus lointain, la pré-pension. Alors, elles rêvent d'une vie de fantaisie ultime où rien n'est réglé. Elle rêve, alors on peut se satisfaire aussi d'une perspective très brève à horizon, à très brève échéance. Moi je suis contente parce qu'on va manger des frites, des bonnes frites, plein. Il y a ça aussi dans Goffman, les petites récompenses prennent des proportions colossales. Mais souvent elles vont rêver un avenir beaucoup plus large et beaucoup plus lointain, comme par exemple l'avenir conjugal. Elle le rêve effectivement, alors l'une d'elles le rêve comme le couple Sartre-Beauvoir. C'est ça son modèle à elle, c'est cette façon de rêver une vie totalement placée sous le signe de la liberté. Elles ont, moi je dirais, on pourrait appeler ça le mal du fini, hein, pour contrefaire Durkheim qui parlait du mal de l'infini. Elles ont le mal du fini, et le mal du fini se traduit par des productions d'imaginaire beaucoup plus larges et des productions d'indéfini, de cette manière. L'une dit, je trouve que ça sent quelque chose là, qui est un air qui a un souffle d'ambition, de désir mal défini. Elles vont en finir par problématiser le destin autour d'une question centrale, qui d'ailleurs est l'objet d'une dispute entre elles. Est-ce qu'on peut forcer la main des événements? Est-ce que l'homme peut être maître de sa destinée? Ou bien tout est-il déjà écrit ou empêché? Cette dispute-là, ces considérations-là viennent à un moment où elles ont l'impression que toutes les ruses qu'elles ont développées se heurte systématiquement à un obstacle. Et c'est la figure communiste dans l'histoire qui est le plus en train de dire qu'on est maître de notre destinée. C'est intéressant. Elles vont même débattre de Dieu. Ça, c'est sur la question de la fatalité, etc. Enfin, elles vont produire une problématisation de ce que c'est que la conjugalité rêvée. Je l'ai juste mentionné. Le repoussoir absolu, c'est la vie bourgeoise telle qu'elle le désigne. Et pour elle, la vie bourgeoise, c'est un mari pantouflard, c'est une vie encroûtée, etc., etc. Et donc on rêve de vivre, en tout cas pour l'une d'elles, comme Sartre et Beauvoir. Et donc, je conclue en disant que, ces jeunes filles, pour autant, n'ont pas de problématisation de la politique. La seule mention de la politique, c'est en avril 61, le putsch des généraux. Elles craignent la guerre, mais c'est la seule mention de la politique. Elles ne se perçoivent pas non plus comme des êtres historiques qui seraient le produit d'une époque. Elles disent que leurs parents sont rétrogrades, mais elles ne se vivent pas comme des êtres historiques qui seraient pleinement conscients du moment historique qu'ils sont en train de vivre, c'est-à-dire on nous impose des trucs et nous, on est déjà passé à autre chose. Et enfin, elles n'ont pas de discours de rupture sociale, finalement. Leur condition n'est pas prise dans un discours d'élaboration critique, de critique sociale. Je termine en disant que toutes ces polémiques, la dissection constante de leurs affects et de leurs pensées, les débats sur la légitimité de la ruse, la loyauté familiale, la liberté, le destin, la conjugalité, l'amour, montrent enfin ce que c'est que ce journal collectif pour ces jeunes filles. C'est une pratique de la signification dans une vie qui paraît insignifiante. Il est donc une ressource contre l'insupportable de la domination rapprochée. Au panoptisme de la pension, il oppose un entre-soi, un fort privé. Au contrôle de la mixité et de la féminité, il oppose la construction collective d'un moi des demoiselles. À la répression de la parole, une écriture clandestine. Et à l'emprise de l'institution, un souci de soi. Bref, à un assujettissement, une forme de subjectivation. Ce type de source est, à mon avis, inestimable pour un chercheur. J'ai l'impression qu'il y a du Larsen. Parce que ça permet d'étudier la domination rapprochée non plus seulement de point de vue structurel, mais à travers ses pratiques quotidiennes et infimes. Ça permet de la saisir aussi sur le vif et non pas par le biais de la mémoire. Ça permet de l'étudier du point de vue de ceux qui la subissent, là où on en passe souvent par des archives des institutions elles-mêmes. Elle dévoile la façon de les dominer, l'éprouve et l'exprime, les tactiques et les ruses qu'ils lui opposent, et en ceci, c'est à proprement parler un texte caché de la domination rapprochée, je pense. Enfin, ça permet de relire un peu l'histoire des racines de mai 68 chez les individus ordinaires, en se plaçant, et c'est à mon avis ça que je pourrais défendre, dans ces zones grises où des désirs mal définis rendent la domination insupportable, où il y a des désaccords sensibles qui rongent la légitimité de l'autorité, où il y a des ruptures d'accommodement à l'ordre des choses qui couvent sous l'obéissance, sans pour autant que les individus disposent encore des armes de la critique sociale ou de l'action collective. Enfin, dernière invite à la sociologie, moi je trouve cette source-là, c'est une invite à étudier la vie subjective et la vie des affects qui débordent considérablement dans cette source-là la vie des faits et la vie des actes et la vie des pratiques. Je pense que c'est lié à la situation de souffrance sociale de la domination rapprochée, mais je pense que dans la vie normale aussi, la vie subjective et affectuelle est considérable par rapport à la vie des faits et la vie des actes. Merci, j'espère que j'ai pas trop dépassé le temps.
En transition, j'y vais directement et je vais aussi courir un tout petit peu, j'en suis désolé, vu le temps qui m'est imparti, en remerciant les organisateurs de m'avoir convié. Je vais entrer directement dans le sujet. Est-ce que les rapports de classe dans les tranchées peuvent être qualifiés de situations de domination qui soient à la fois rapprochées, et c'est la petite spécificité de ce dont je vais vous parler, de domination qui soit aussi inversée? Je crois qu'on peut répondre clairement oui, même si l'inversion n'est que momentanée et incomplète, vous allez le voir. Alors qu'est-ce qui constitue la spécificité de la mobilisation de 14-18 sous cet aspect? C'est d'abord que les tranchées sont un événement hors norme par le brassage social qu'elles occasionnent. C'est un cas historique très rare, je crois, de mélange des classes, qui est à la fois massif, durable et qui met directement en jeu le corps des individus, vous allez le voir. Parce que les tranchées, c'est d'abord un lieu encombré, un lieu où règne une proximité absolument terrible. Je vais en dire quelques mots. Ensuite, les tranchées sont aussi le lieu d'une mise à l'épreuve du sens ordinaire de la domination. Pourquoi ? Parce que les intellectuels et les membres des classes supérieures qui partent, souvent engagés volontaires mais pas toujours, ils se retrouvent à la fois socialement minoritaires dans les tranchées et tenus de faire des choses de leurs mains. Et c'est ça qui conduit à une inversion partielle de la domination ordinaire. C'est d'ailleurs cet isolement social auquel ils font face qui produit également des sources intéressantes. Hein. C'est parce qu'ils sont, comme ils disent, je suis seul de mon espèce, dans la compagnie dans laquelle je suis mobilisé, que les intellectuels racontent leur découverte du peuple. En l'occurrence, ce n'est pas une histoire à parts égales. Comme le dit Romain Bertrand, moi au départ je voulais mobiliser pour écrire une histoire des rapports de classe dans les tranchées à la fois des sources populaires et des sources issues de membres des classes supérieures. On peut pas le faire, enfin on peut le faire, mais on raconte une histoire différente. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que les membres des classes supérieures qui racontent leur découverte du peuple. Eux sont frappés par leur isolement social, eux se disent « je suis absolument perdu ». Je suis un intello de service là au milieu, et donc ils racontent ces gens étranges qu'ils connaissaient que de loin et de haut jusque-là, alors qu'à l'inverse, les paysans, les artisans, les ouvriers qui sont présents dans les tranchées pour un petit moment, eux, ils se retrouvent en général ensemble. Ils sont mobilisés après leur service. Je n'ai pas du tout le temps de détailler tout ça, mais les classes supérieures à l'époque ne font pas de service ou un service beaucoup plus court d'un an au lieu de trois, etc. Bref, donc ils sont souvent étudiants parisiens. Ils se retrouvent complètement perdus dans des régiments où en général ils ne connaissent personne, à l'inverse des membres des classes populaires qui eux partent ensemble avec des copains de régiment, et ils racontent ça dans leurs lettres et carnets. Donc ça c'est extrêmement important à garder à l'esprit pour comprendre pourquoi je vais mobiliser seulement des sources ici issues des classes supérieures. Si vous ouvrez des carnets de guerre d'ouvriers, vous trouverez très peu de choses sur les rapports de classe, et à l'inverse des intellectuels qui, eux, vont raconter évidemment la guerre, mais aussi et surtout, d'une certaine façon, leur découverte du peuple. L'inversion n'est pas complète et temporaire. Pourquoi ? Pour deux raisons simples. D'abord, parce que l'inversion est spécifique aux membres des classes supérieures qui partent dans le rang. Là, je ne vais vous parler que des intellectuels très connus, Apollinaire, enfin, il y en a plein, Marc Bloch, Robert Herz, vous allez voir les noms qui vont défiler, qui sont partis dans le rang, ou au plus comme sous-officiers, mais presque tous dans le rang. Or, ils sont tout à fait minoritaires. La plupart des classes supérieures sont officiers de réserve en 1914. Donc je vais vous parler d'une toute petite part d'entre eux qui partent dans le rang. Pourquoi c'est très important pour moi ? Parce que ce sont les seuls à coucher, à dormir, à manger avec les membres des classes populaires, avec les autres soldats du rang. Les officiers, eux, ont un homme à leur service, l'ordonnance, qui s'occupe de tout pour eux, qui porte le sac, qui leur fait à manger, qui prépare leur lit, qui est une femme de chambre. Voilà, une ordonnance. C'est évidemment pas le cas des seuls soldats partis dans le rang, intellectuels partis dans le rang. Et puis, elle est également cette inversion momentanée parce qu'elle touche essentiellement, je vais y revenir longuement, les moments de travaux militaires et pas les moments de repos qui sont tout différents et où ils essayent au contraire de remettre en œuvre des formes d'identité qui leur sont propres, pouvoir observer des biens sans maître, des paysages, des églises, les décrire, lire, écrire, penser, bref, tout ce qui faisait leur activité d'intellectuel avant de partir en guerre. Ce qu'ils essaient de faire dans les moments de repos, c'est remettre en œuvre ça. Bon, ce qu'ils ne peuvent pas faire, évidemment, quand on les oblige à aller creuser des tranchées, construire des parapets, faire des abris, etc., etc. Donc, en gros, en ce sens, les tranchées sont un remarquable terrain où mettre à l'épreuve le savant et le populaire, dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui et les jours précédents, si on veut bien admettre en particulier qu'au cœur du livre se trouve la question de l'ambivalence du regard des dominants sur les cultures populaires. Est-ce qu'on voit dans les carnets et les lettres, ah oui, je précise encore, je n'ai pas le temps d'y insister, que là aussi, comme Boris, j'ai utilisé exclusivement des gens dont on avait publié ou gardé les correspondances ou les carnets de guerre, et pas les romans ou les réflexions qu'ils ont pu écrire après coup. Pourquoi ? Parce que c'est dans les lettres à leur famille qui donnent des petits détails sur la domination, et qui sont complètement évacués des textes ultérieurs du type roman. Par exemple, Henri Barbus, dans une lettre à sa femme, il dit « achète-moi des guêtres, mais qu'ils ne fassent pas trop riches, pas trop officiers ». évidemment, ce type de mention-là, il se garde bien de le mettre dans le feu. Hein. Jean Hortoncru, dans une lettre à son frère, il dit « J'ai une conscience, eux semblent s'en passer », en parlant des autres soldats qui l'entourent. C'est évidemment pas ce qu'il va garder dans son livre célèbre « Témoin ». Bref, vous voyez pourquoi je me suis intéressé aux correspondances et aux carnets et pas aux autres traces disponibles qu'ont pu écrire ces intellectuels, hein, même quand ils ont écrit les deux. Donc je résume, les tranchées, c'est un terrain exceptionnel au sens où, au moins de façon momentanée, les membres des classes supérieures vont en quelque sorte passer des épreuves ou des examens parmi les membres des classes populaires. Si vous vous souvenez du savant et du populaire, hein, ce que racontent Grignon et Passeron, à un moment, ils donnent l'exemple d'un roman italien, je crois, où un jeune écolier d'un quartier populaire dit à sa maîtresse « On serait quitte ou on serait à égalité si vous veniez passer des épreuves chez nous ». Bon, ils discutent tout ça. En quelque sorte, hein, c'est un cas de figure extrêmement rare où, effectivement, des membres des classes supérieures vont passer des épreuves de l'autre côté de la barrière. Des épreuves qu'on peut dire de bricolage, de tout ce que vous voulez, de tenir le coup physiquement, de virilité, etc., etc. Donc c'est ce que je voudrais essayer d'illustrer là très rapidement. Premier point, les difficultés physiques. Je vous donne quelques exemples, hein, de ce qu'ils énoncent, auxquels ils doivent faire face immédiatement. En gros, il faut quand même, il faut que je dise deux mots de ça. Ils partent avec l'idée de presque tous, hein, on va enfin refaire l'an 2. Là, c'est une occasion de refaire la levée en masse, ensemble, aux côtés des gens du peuple, de mettre à l'épreuve ce qu'on a pu dire, en particulier parmi ceux qui sont les plus à gauche avant 14, hein, dans les universités populaires ou dans leur militantisme à la SFIO, etc., etc. Ils partent évidemment presque immédiatement avec l'enterrement dans les tranchées, dans la guerre de position. Ils sont confrontés à une promiscuité extrême et à l'impossibilité de rester ce qu'ils étaient jusque-là, des hommes qui pensent, qui lisent, qui sont libres de choisir leur emploi du temps, etc., etc. Et puis ils sont confrontés à des difficultés physiques très fortes. Jules Puech, par exemple, il a 36 ans, c'est un engagé volontaire, hein, il aurait pu ne pas y aller comme beaucoup. Il est docteur en droit. Il s'occupe de la revue La paix par le droit, avant la guerre de 14, et il est membre de la Société d'histoire de la Révolution de 48. Il a fait une thèse sur Proudhon. Enfin, vous voyez, c'est un homme engagé à gauche, etc., etc., donc je pourrais dire beaucoup de choses de sa biographie. Et il s'engage et il est tout de suite confronté, en premier lieu, à cette difficulté physique. Il écrit à sa femme, je le cite, « Les camarades me pardonnent de n'être pas bâti tout à fait sur leur patron. » Certains me considèrent comme une sorte de savant occupé à des besognes supérieures. D'autres comme une sorte d'original que les affaires militaires laissent absolument indifférent. D'autres enfin comme animé de bonne volonté et ne me faisant pas tirer l'oreille. Je ne dis pas qu'il n'y en ait point qui détestent ma classe, et moi avec par généralisation, et qui ne soient bien aise de voir un bourgeois peiner avec eux. Mais ceux-ci doivent en être pour leurs frères en me voyant d'excellente humeur. Donc tout ce qu'ils essaient de faire, hein, c'est évidemment de s'adapter à cette difficulté physique, de faire face, et ils y sont constamment confrontés. Robert Hertz, élève de Durkheim, sociologue, hein, est apostrophé par son officier. Lui, il est pourtant membre du club alpin français, hein, Robert. Il dit « Mon pauvre Hertz, le camping prolongé dure un peu trop longtemps pour vous, n'est-ce pas ?» Et puis il continue en se moquant de lui « Ça vous change de bar à Lipton ?» Pourquoi il l'appelle Bar à Lipton ? Parce que Hertz boit du thé tous les jours à 5 heures. Hein, ce qu'ils disent. Ces difficultés, j'y insiste par rapport à la consigne de Dominique, ces difficultés s'inscrivent directement dans le corps, hein, et ont des incidences très fortes, même si, et également se troublent systématiquement de jugements sociaux. Par exemple, très vite, hein, ils ont les mains abîmées par les travaux de force qu'ils font, le fait qu'ils sont toujours en plein air, etc. Henri Fauconnier, qui sera pris Goncourt en 1931, qui est un fils de négociant dans le cognac et qui est parti faire fortune en Malaisie dans le caoutchouc juste avant-guerre, hein, il écrit à sa femme, il remarque l'apparition de rides sur ses mains et le dessèchement de la peau, et il ajoute alors « mais c'est peut-être l'habitude de la crasse hein, ». Vous voyez le sentiment de déclassement qui vient et qui s'exprime avec une très grande force dans leurs lettres. Pierre-Maurice Masson, un normalien qui est professeur de littérature française à l'université de Fribourg, Il raconte à sa femme, hein, ses nouvelles et peu guerrières activités. Il dit « Je t'écris avec des mains ignobles qui viennent d'éplucher les patates et de triturer des équipements. Besogne, comme tu le vois, inglorieuse entre toutes. » Donc vous voyez, hein, là, évidemment, les intellectuels, les membres des classes supérieures ne sont pas les seuls à faire face à des difficultés physiques. Hein, il y a plein de paysans, plein d'ouvriers qui souffrent aussi très durement de ce qu'on leur impose physiquement. Mais ce qui est spécifique aux intellectuels et aux membres des classes supérieures, c'est ce type de jugement par rapport à ce qu'ils vivent comme un déclassement social extrêmement profond. Et là où la difficulté devient plus forte encore, c'est quand on leur demande de faire preuve d'habileté de leurs mains. Alors là, par contre, c'est terrible, parce que là, ils font face à des difficultés beaucoup plus importantes encore, qui racontent très clairement. Théillard de Chardin, par exemple, écrit à sa sœur, « En ce moment, un peu de talent musical et culinaire me servirait plus que toute ma paléontologie. » Robert Hertz, il dit de même à sa femme, « Dommage que je sois si mal doué de ce côté, le bûcheronnage. J'aurais pu te transmettre beaucoup de leur savoir. » Jules Puech, qu'on a déjà vu, il dit « J'aimerais bien me faire pardonner d'être maladroit avec ma pelle et insuffisant avec ma pioche. » Gardez ça en tête, parce que vous allez voir qu'après, il va reprendre des formes de domination en se trouvant, comme il dit, je le dis déjà maintenant en fait, un pelleur, quelqu'un qui va peller pour lui. Hein, vous voyez, là on est au début de la guerre, il écrit ça, enfin au début de sa mobilisation à lui, il écrit ça le 31 juillet 1915, et quelques mois après, il va trouver quelqu'un pour peller à sa place, hein, dans les conditions que je vais vous... Et encore une fois, là, ça va marcher ?
Essaie de parler ?
Oui, ça marche encore, là ?
Oui, là. Si, celui-là, il marche.
Non, mais je vais continuer avec ça. Ça marche encore. Et ça a des conséquences tout à fait directes et importantes sur leur corps et sur la façon dont ils peuvent faire face physiquement, hein, à l'épreuve qui leur est demandée. Je vous en donne, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Je veux dire, leur malhabileté physique, le fait... Je vais essayer avec celui-là en espérant que ça marche mieux. Qu'est-ce que je vous racontais ? Oui, que leur malhabileté physique peut avoir des conséquences tout à fait directes et fortes sur leur corps et sur la possibilité qu'ils ont de tenir et de faire face. Hein. Par exemple, c'est le cas à nouveau d'un jeune normalien qui s'appelle Henri Jacquelin, qui est prof et qui a été élu, qui a été maire SFIO de Quimper avant-guerre entre 1912 et 1914. Il s'engage aussi, notamment il s'engage aussi, il n'avait pas fait de service parce qu'il est myope comme une taupe, mais il y va quand même, évidemment l'armée le prend, et il y va quand même parce que, en particulier, son frère médecin est directement officier. Lui, il part dans le rang, à son grand désagrément, et il doit faire face à des tas de problèmes. Il arrive là-bas et il écrit « Pas de pain depuis quand ?» Il ajoute « J'ai... » Et il ajoute, je vais essayer d'arriver. J'ai essayé vainement de traire une vache dans une étable abandonnée. Donc vous allez me dire, il est possible que l'animal n'ait plus de lait à donner. Hein. En gros, ils ont faim, on est dans la débâcle, il essaye de traire du lait pour boire un peu et d'avoir des choses à manger. Et il n'y arrive absolument pas. Il dit, c'est vain. Et la comparaison est relativement cruelle. Hein. Émile Carrière, qui est le fils d'un notable de province qui est prof de physique à Montpellier, il écrit, lui, deux jours après, hein, Henri Jacquelin écrivait le 9 septembre 14 et lui écrit le 11 septembre 1914. Ils sont pas tout près l'un de l'autre, mais quand même à deux jours d'intervalle. Et lui écrit, Émile Carrière, « Des vaches pèsent dans les environs, de nombreux camarades ont trait leur lait. Lui ne s'y risque pas, donc en l'occurrence, vous le voyez. Hein. Quant à moi, j'ai fait une cueillette abondante de prunes en allant chercher de l'eau. Bon, et on trouve exactement le même type d'exemple bien souvent. Hein. Ça les empêche très souvent, par exemple, de se faire un abri personnel dans les tranchées quand il pleut, etc. etc. Jules Puech raconte ça à sa femme. Il dit « Les soldats débattent pour savoir si l'orage va éclater. » Bon. Et lui, il raconte que certains de ceux qui sont autour de lui se construisent très vite en abri. Lui, il fait rien. Il dit « J'en étais absolument incapable. » L'orage tombe. Évidemment, il reste trempé pendant des heures dessous. Donc, vous voyez qu'en ce sens-là, je vais très vite, la guerre est bien un moment rare d'inversion temporaire du sens de la domination. Hein, presque tous le racontent. Alain, je le cite, le philosophe, il dit « Je ne me suis jamais senti autant homme du peuple et illettré hein, qu'en passant la visite médicale pour la guerre. » Et après, il va raconter dans ses souvenirs de guerre des tas d'exemples comme ça, d'humiliation, où on lui dit « Mais t'es complètement nul, t'arrives pas à porter un sac d'avoine, enfin bon, son supérieur hiérarchique direct, etc. » Pierre-Maurice Masson, il raconte à sa femme « Essaye d'imaginer le vice-doyen de la faculté que je suis en sabots traînant misérablement dans les tranchées. » Émile Carrière, dont je viens de parler, hein, son père a une usine dans le sud de la France, dans les Cévennes, et il explique « Parce que je porte le même uniforme qu'eux, les propres ouvriers de mon père se croient immédiatement autorisés à me tutoyer, à me parler grossièrement. Nous vivons tous ici dans un état de promiscuité physique et morale extrême. » Henri Fauconnier, dont j'ai déjà parlé aussi, hein, il se remémore sa vie d'avant, évidemment, c'est toujours en comparaison avec ce qu'était leur vie civile. Lui, il est planteur en Malaisie, hein, il gagne une fortune avec les triplements du prix du caoutchouc en 1910, et il dit, il a été pris comme agent de liaison d'un officier, et il écrit à sa femme, « Je suis à la fois le boy, le cookie, le tapal ». Il reprend exactement les termes qui sont utilisés pour décrire les services à la personne en Malaisie, le serviteur, le cuistot, le cuisinier, le coursier, pardon. Idem, hein, il décrit la promiscuité, le fait que le bruit l'empêche de lire et de réfléchir tranquillement. Il dit dans ses lettres « J'ai besoin de silence pour lire », etc., etc. Et il ajoute « Moi que ça gênait d'entendre Cassavan balayer dans la pièce à côté ». Cassavan, c'est le boy qu'il avait en Malaisie, évidemment. Hein. De même, autre exemple de ce type, Roland d'Orgelès, hein, il écrit, toujours à sa mère cette fois, « Sais-tu ce que j'ai mangé ce matin à 8h30, réveillé à 5h ? Du pâté de porc et du fromage. Et naguère, je regardais avec une curiosité un peu méprisante les aides-maçons qui, le matin, cassaient la croûte à la porte des chauds de vin. » Donc vous voyez, hein, c'est ce genre d'aversion qui les rend... qui rend leur adaptation extrêmement pénible au sens où ils doivent tout le temps faire face à des situations où ils sont directement dominés, où ils subissent, et où ils subissent en particulier les explications des autres. Hein, c'est frappant de voir au long de leur carnet ou de lettres que la plupart d'entre eux vont apprendre à cuisiner, hein, vont apprendre à couper du bois, à faire du feu, etc., etc. Il faut voir aussi que par rapport aux gens des campagnes qui arrivent, par exemple dans un témoignage populaire célèbre, celui de la famille Papillon, l'aîné de la famille, Marcel, qui est pourtant le plus éduqué de la famille, explique à ses parents qu'il a pour spécialité de construire des cheminées qui ne font pas de fumée, pour ne pas être repéré par l'ennemi. Vous voyez bien que ce genre de capacité technique-là, de savoir-faire, n'existe absolument pas dans les rangs des membres des classes supérieures, sauf très rares exceptions. Ça a des effets décisifs sur le rapport aux autres. Hein, par exemple, Pierre-Maurice Masson, dont j'ai déjà parlé, dit à sa femme, il est très prudent, il dit « Je crois qu'il ne me déteste pas ». On voit que la question des goûts et du dégoût est très proche ici. Hein, elle est directe chez Jules Puech. Je me demande si je les intimide ou si je les dégoûte. Vous voyez à quel point hein, les rapports sont extrêmement violents entre eux. Combien de temps il reste ? Il faut finir. Bon. Alors, s'il faut finir, je vais choisir une toute petite chose. En quelque sorte inverse, bon, je vous ai déjà donné, je voulais vous raconter un peu après comment ils essayent de regagner du terrain et comment ils y arrivent, hein, en particulier en obtenant l'aide de leurs camarades, voire en achetant de façon pécuniaire directe, hein, l'aide des autres pour faire à leur place. C'est l'exemple de Puech qui trouve un pelleur, et il y en a plein dans ce genre, même pour s'équiper. Une autre manière de s'en sortir, c'est évidemment de retrouver l'aide des siens, c'est-à-dire l'aide des gradés, hein, qui sont membres des classes supérieures et avec lesquels ils vont se mettre à discuter et à essayer d'obtenir un poste privilégié, soit en obtenant eux-mêmes un grade, soit en obtenant un poste dans l'administration, dans l'écriture, dans la tenue des comptes, dans l'écriture des rapports, etc., etc. Bon, et dans ce cas-là, ils se remettent immédiatement à faire la leçon aux autres en disant « Vous n'y croyez pas assez, vous n'êtes pas assez patriote, vous n'y êtes pas allé avec assez d'espoir au cœur, etc. etc. » Bon. Et puis je conclurai en disant l'extrême inverse, c'est que la plupart de ces gens, pas tous, parce que certains vont refuser les grades, comme Alain ou quelques autres, mais la plupart de ceux dont j'ai parlé là vont finir officiers. Hein. On va reconnaître leur mérite et ils vont devenir officiers au cours de la guerre. Et quand ils deviennent officiers, c'est le cas de presque tous mes héros là, immédiatement on leur octroie une ordonnance. Bon, ce qui m'a frappé, c'est la facilité avec laquelle des hommes, souvent pour certains d'entre eux très jeunes, par exemple des jeunes normaliens qui entrent rue d'Ulm entre 1910 et 1913, hein, s'adaptent avec une facilité extrême au fait d'avoir quelqu'un à leur service. Ça leur paraît quelque chose d'immédiatement évident et qu'ils ne remettent jamais en cause. Bon, c'est ce genre de choses-là qui m'a intéressé, que j'ai essayé de travailler. Et puis également le fait que ceux qui ne deviennent pas officiers, membres des classes supérieures, refusent évidemment de devenir eux-mêmes ordonnance. À Jules Puech, on va lui proposer. Il est protestant, l'aumônier protestant cherche une ordonnance pour lui. Tous ses camarades de section lui disent « Jules, c'est l'occasion ou jamais de t'en sortir, t'es vieux, t'es mal foutu, t'es pas fait pour la vie des tranchées, deviens ordonnance, tu seras beaucoup plus tranquille. » Évidemment, il dit à sa femme « Comment peuvent-ils imaginer que moi je me mette au service de quelqu'un d'autre pour faire son lit, porter ses affaires, etc. etc. » Et puis, dernier cas qui m'a beaucoup intrigué, c'est le fait qu'en marge des règlements officiels, normalement seuls les officiers peuvent avoir une ordonnance, des soldats qui restent des soldats du peuple, ceux dont j'ai parlé, comme Émile Carrière ou Roland d'Orgelès et quelques autres encore, se donnent ce qu'ils appellent un tampon, c'est-à-dire l'équivalent d'une ordonnance non officielle, c'est-à-dire pas accréditée ni reconnue par l'armée, mais quelqu'un toujours choisi parmi les rangs des paysans ou des ouvriers qui vont mettre à leur service pour les aider, hein, moyennant rémunération qu'ils peuvent octroyer en général en faisant venir de l'argent de l'arrière directement. Voilà. C'est ce genre de remise en place de situations de domination très forte que j'ai essayé de travailler. Ouais, je m'arrête là, désolé.